Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, Alep, la deuxième ville de Syrie, tombée aux mains d'une alliance de groupes djihadistes et rebelles. La majeure partie de la grande ville du Nord est maintenant sous son contrôle au terme d'une offensive éclair qui n'a pas rencontré de résistance. En Géorgie, les autorités annoncent plus de 100 arrestations au deuxième jour des manifestations anti-gouvernementales à suivre dès le début du journal. Trêve précaire au sud Liban. Ce matin, l'armée israélienne a frappé un site, affirmant qu'il servait au Hezbollah pour acheminer des armes. La position du gouvernement français fragilisé plus que jamais, en pleine crise budgétaire et devant la menace d'un vote de censure. Malgré l'instabilité politique, la France échappe à une dégradation par l'agence Standard & Poor's, l'une des grandes agences de notation. Les autorités géorgiennes annoncent un total de précisément 107 arrestations au deuxième jour des manifestations anti-gouvernementales. En pleine crise post-électorale, l'opposition géorgienne reproche au gouvernement sa décision de reporter les discussions sur l'adhésion à l'Union européenne. Hier soir, les forces de l'ordre ont fait usage de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser des milliers de manifestants. Reportage de notre correspondant à Tbilissi, Régis Janté.
Pas de discours, pas de musique comme souvent dans les manifestations en Géorgie. Juste le bruit infernal d'activistes qui, avec des pierres, frappent mécaniquement sur les plaques de métal de protection placées par la police à l'entrée principale du Parlement. Pendant ce temps, c'est probablement trois fois plus de manifestants que la veille qui se sont réunis sur l'avenue Roustavéli. Une foule déterminée, munie de masques et de lunettes, de piscines souvent, pour se protéger des gaz lacrymogènes. La peur est là, mais on a décidé de la surmonter, comme Gwansa, étudiante en médecine.
Mon gouvernement est en train de me voler mon avenir, et c'est pourquoi je suis là ce soir. Ça m'inquiète que mon avenir puisse ne pas être européen. Ça risque d'être violent, je le sais, mais je suis quasiment toujours ici lorsqu'il y a une manif.
Gwansa avait raison, à 23h pétantes, les forces de l'ordre ont commencé à bouger comme la veille. À nouveau, des barricades sont érigées, des poubelles incendiées, la cacophonie des cris, insultes, sirènes et explosions de toutes sortes, tandis que les drapeaux de la Géorgie et de l'Europe flottent dans une lumière bleu-grise et l'air saturé de fumée. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Une attaque éclair de seulement 3 jours aura suffi. Les djihadistes et leurs alliés contrôlent maintenant la majeure partie d'Alep, deuxième ville syrienne avec 2 millions d'habitants. Elle est située dans le nord-ouest du pays. Les forces anti-gouvernementales ont avancé très vite cette semaine, sans rencontrer de véritable résistance, les autorités ayant pris la fuite. L'armée syrienne déplore des dizaines de morts et de blessés dans l'offensive des djihadistes. Et elle confirme la présence de combattants anti-régime dans de larges parties d'Alep. Enfin, des avions de guerre russes et syriens ont ciblé des combattants rebelles aux alentours de la ville dont l'aéroport a été fermé. Au sud Liban, la trêve est très fragile. Ce matin, l'armée israélienne a frappé un site affirmant qu'il servait au Hezbollah pour acheminer des armes. L'enclave palestinienne de Gaza, elle, attend toujours une trêve. Des discussions devraient avoir lieu aujourd'hui au Caire, où sera une délégation du Hamas. Après plus d'un an de guerre dans la région et des dizaines de milliers de victimes côté palestinien, les conséquences économiques sont elles aussi terribles. Mais les banques palestiniennes échappent à la paralysie. Israël a en effet prolongé un accord bancaire qui était sur le point d'expirer. Explication à Ramallah, en Cisjordanie occupée, d'Alice Froussard.
C'était jeudi, lors d'une réunion du cabinet de sécurité, que la mesure a finalement été approuvée. Les banques israéliennes peuvent continuer à travailler avec les banques palestiniennes, une décision grandement encouragée par l'administration Biden et ses alliés occidentaux, notamment le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, qui redoutaient un effondrement de l'autorité palestinienne. C'est surtout un soulagement pour les banques palestiniennes, car depuis plusieurs mois, Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, avait menacé de couper cette connexion vitale entre Israël et les banques palestiniennes. Depuis mai dernier, cet accord n'était renouvelé que d'un mois à la fois, car le ministre suprémaciste juif, habitant d'une colonie israélienne, disait craindre le financement de groupes armés par l'intermédiaire de ces banques. Cela illustre surtout le fait que l'économie palestinienne dépend majoritairement des relations que les banques entretiennent avec leurs homologues israéliennes, notamment pour traiter des transactions effectuées en shekel, puisque les Palestiniens ne disposent pas de leur propre monnaie. Alice Froussard, Ramallah, RFI.
En Namibie, les électeurs continuent de voter ce samedi, au dernier jour d'un scrutin indécis pour le parti historique au pouvoir. Le vote a été prolongé dans quelques bureaux de vote en raison de défaillances ayant privé de nombreux électeurs de déposer leur bulletin dans l'urne. La demande de l'Éthiopie, pays enclavé dans la corne de l'Afrique, sa demande d'un accès à la mer est légitime. C'est une source diplomatique française qui le dit après qu'Addis Abeba a signé un protocole d'accord avec la région séparatiste du Somaliland, protocole contesté par la Somalie. L'armée française est donc poussée vers la sortie au Tchad et au Sénégal, deux anciennes colonies qui ont exprimé leur souhait de voir partir les soldats français stationnés sur leur territoire. Le Quai d'Orsay a réagi en déclarant que Paris prenait acte, tandis que dans la classe politique française, les réactions oscillent entre fatalisme, critique acerbe du président Macron et effet de surprise. Reportage de Raphaël Delvolvé.
La plupart des réactions viennent de la gauche. Pour la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret, la France ne perçoit pas l'évolution rapide des sociétés africaines.
On nous dit très clairement que nous faisons partie de ceux avec qui ces pays entendent peut-être travailler, mais ne sont plus du tout dans un schéma ancien aujourd'hui où on leur dit finalement ce qu'ils ont à faire.
Beaucoup plus sévère, l'insoumis Aurélien Saint-Toul, il voit lui l'échec de la politique d'Emmanuel Macron en Afrique.
C'est la sanction d'une politique faite de zig et de zag, de pétitions de principe qui ne sont pas respectées. On a affaire à une politique africaine d'un cynisme total. Il y aura eu le déshonneur et la perte d'influence en même temps.
À droite, ce changement de position brutal à N'Djamena et Dakar est perçu comme un échec dans la réponse à des influences venues de Chine, de Russie, de Turquie et nourrissant le sentiment anti-français. Et ce, pas seulement chez les dirigeants, mais aussi au sein des populations. Le sénateur Les Républicains Roger Karoutchi appelle à une sérieuse réflexion.
Posons-nous la question de savoir est-ce que nous avons mis les moyens pour faire en sorte que le lien humain avec la population, avec les jeunes, se soit maintenu.
Les élus du camp d'Emmanuel Macron hors des micros disent leur surprise. Nouveau signe tendant à indiquer que les autorités françaises ont été prises de court.
Raphaël Delvolvé, en Roumanie, la Cour constitutionnelle décidera lundi s'il convient d'annuler les résultats du premier tour de la présidentielle. Un scrutin remporté dimanche dernier par un candidat indépendant pro-russe. Ce vote surprise a entraîné des suspicions d'irrégularité. La Cour a repoussé sa décision au lendemain des législatives qui se tiendront demain dimanche. Comme la présidentielle, ces élections pourraient profiter à l'extrême droite. Le plastique et ses dangers pour la santé au cœur de discussions en Corée du Sud. Un sommet sur le sujet se tient actuellement à Busan. Ce matin, plusieurs délégations n'ont pas caché leur crainte d'un échec faute de consensus à la veille de la date butoir. Un groupe d'une soixantaine de pays est favorable à un traité fort s'attaquant à l'ensemble du cycle de vie du plastique, de la production aux déchets. Cette coalition s'oppose à un petit groupe, surtout des producteurs de pétrole comme la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Lui estime que le traité négocié à Busan doit uniquement concerner la gestion des déchets et le recyclage. Retour en France où la position du gouvernement est plus que jamais fragilisée en pleine crise budgétaire et devant la menace d'un vote de censure à l'Assemblée. Le Premier ministre Michel Barnier a fait des concessions à l'extrême droite, pas assez pour Marine Le Pen qui n'exclut toujours pas de voter la censure. Dans ce contexte périlleux pour le gouvernement, l'agence de notation Standard & Poor's a, elle, décidé de maintenir la dot de la dette de la France. Une décision surprenante aux yeux de l'économiste Éric Dor, directeur des études à l'ISEG Paris.
Si S&P dit apprécier le budget initial qui était proposé par M. Barnier, avec l'ambition de réduire le déficit public de la France à 5% dès 2025, grâce à des économies de dépenses ou des surcroîts de recettes qui ensemble amélioraient le déficit de 60 milliards par rapport à un scénario politique inchangé, eh bien personne n'a la garantie, et c'est même plutôt le contraire, que ce plan va vraiment être appliqué. Donc c'est vraiment faire un pari extrêmement incertain sur la possibilité qu'ait le gouvernement à faire accepter ce budget, et c'est un peu contraire à ce que l'on aperçoit actuellement sur la scène politique. Donc c'est un curieux pari que semble avoir pris Standard & Poor's. C'est assez difficile à rationaliser comme ça, a priori.
L'économiste Éric Dor avec Alexis Bédu. Enfin, le pape François s'est exprimé ce matin au Vatican contre l'euthanasie. Il l'a fait devant des parlementaires du sud de la France où un projet de loi envisage le droit à une aide à mourir. François effectuera dans 2 semaines une visite en Corse, île française. Bonne journée sur RFI. Elle continue avec Carrefour du Maghreb.